19h-20h. Les informés.
Je souhaite que chacun se reprenne.
Avec Adil Farkan.
Je vous demande de vous arrêter.
Sur Beurre FM.
Eh oui, c'est bien, les informés, c'est parti, durant une heure jusqu'à 20h, nous sommes ensemble justement dans les informés, et les informés c'est vous, au 01 53 48 3000, mais également on est là tous ensemble pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Alors vous le savez, au menu ce soir, au sommaire, nous allons emprunter la voie de trois sujets d'actualité qui ont retenu notre attention aujourd'hui, sans épargner l'invité du jour aujourd'hui, qui a écrit un ouvrage qui paraît, qui est déjà... paru, déjà disponible même, j'ai envie de dire, sur Amazon. Le préfet de l'islam et l'indigène de la République, c'est Christian Jean, qui est notre invité tout à l'heure, pour venir en parler. Ensuite, les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Nous parlerons de celui qui monte, ça y est, on ne peut plus le retenir, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, la question se pose aujourd'hui. Je vous le dis clairement, les amis auditeurs, peut-il se retrouver au second tour? Oui, probable scénario, Macron, Mélenchon, tout est possible. C'est aussi ça la politique. Parfois, les sondages, vous savez, ne veulent rien dire. Alors, on va en débattre tout à l'heure et commenter cette actualité. Covid-19. Et si l'exécutif avait, tout simplement... Ah, j'ai pas envie de lâcher le mot. Clochette, pardonnez-moi. Non, j'ai failli faire une boulette. Mais non, faut que je me retienne, Nadil. Ça va pas ou quoi? Retiens-toi. Covid-19. La question qu'on posera, c'est est-ce qu'on est en train de retrouver une nouvelle vague au printemps? Parce que les scientifiques, eux, sont déjà en train de crier ou de même sonner la sonnette d'alarme. Alors faut-il la craindre, cette nouvelle vague? Mais surtout, l'exécutif n'a-t-il pas agi trop en avance? Monsieur l'exécutif, le gouvernement, est-ce que vous êtes en train de mettre la population dans une situation embarrassante? C'est la question qu'on posera tout à l'heure. Ensuite... Pécresse. Ouais, c'est ça, Clochette. On a du mal à vous suivre, Pécresse. Hein, faudrait venir peut-être en parler sur Beurre FM. Parce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy n'a pas encore fait son choix. Macron, Pécresse. Pécresse, Macron, Clochette. 19h02, c'est parti. Les informés, c'est tout de suite et sans toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Mais qu'est-ce qui... Pourquoi... Attendez, je vais donner le micro avant d'accueillir notre invité. Raed Shaibi. Vous allez... C'est pas une clochette que vous allez choper, vous. Qu'est-ce qui vous arrive à vous marrer comme ça, là?
Je suis fan de votre présentation.
Ah bon? Bah écoutez, alors, tant que c'est ça, ça va, alors. Ah, blanc, je respire. Je croyais qu'il allait me tailler. Non, mais c'est vrai, Nadir Kaya, non? Moi, je m'apprêtais à ce qu'il dit. Je croyais qu'il allait me tailler. Hein. Non, tous les soirs, c'est comme ça. Hein. Allez, l'invité du jour, c'est parti.
Les informer, l'interview.
C'est le métier qui commence à rentrer. Hein. Je débute, hein, donc j'essaie de trouver ma mécanique. L'invité du jour, c'est Christian Jean. Bonjour Christian Jean.
Bonjour Adil.
Comment ça va? Vous allez bien, mon cher Christian?
Très bien, et vous-même?
Très bien, je vous remercie. Heureux que vous soyez parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur, mais vous êtes surtout quelqu'un qu'on connaît, puisque vous étiez déjà venu ici sur l'Ozone, ancien responsable de l'aumônerie hospitalière musulmane. Vous avez signé un essai qui s'intitule « Le préfet de l'islam et l'indigène de la République » qu'on retrouve, il est disponible d'ores et déjà sur Amazon.fr. Alors, d'abord, pourquoi vous étiez tenté de poser... certaines choses, certaines idées à travers cet ouvrage, Christian Jean?
Alors oui, tout à fait. Cet ouvrage, il répond pour moi à trois besoins. D'une part, quelque chose dont on ne parle jamais.
C'est quoi?
Dans la société française, c'est l'émotion des musulmans.
C'est quoi l'émotion des musulmans?
C'est ce qu'on ressent quand il y a des attaques comme aujourd'hui de Madame Le Pen sur le voile, lorsqu'on a des discriminations dans... le traitement de sa religion, lorsqu'on vit au quotidien l'assimilation à certains actes barbares. Donc la première chose, c'est comment un musulman vit depuis 20 ans, moi je suis musulman depuis 20 ans, comment j'ai vécu ces 20 dernières années, ce que j'ai ressenti, et donc donner l'éclairage de ce qu'on n'éclaire jamais et qu'on laisse toujours dans l'ombre.
Alors vous le dites dans votre ouvrage, vous le dites, c'est vrai que l'islam est une réalité française, vous le dites depuis le Second Empire, mais vous dites surtout aujourd'hui, et vous nous le rappelez, vous dites que aujourd'hui c'est quand même la seconde religion de France. Il appartient aux Français musulmans et à eux seuls de penser l'organisation. Alors là, vous amenez justement les Français de confession musulmane Attendre vers quoi au juste ?
Attendre vers de responsabilisation, une autonomie, et à créer véritablement un islam de France et non pas un islam en France. Pour avoir beaucoup voyagé dans différents pays musulmans et avoir travaillé notamment dans les trois pays du Maghreb,
oui.
L'islam, au-delà de la conception globale de la Oumma et des textes en eux-mêmes qui sont immuables, on a une pratique de l'islam qui est différente lorsqu'on est au Maroc, en Algérie, en Indonésie, au Yémen, au Sénégal. Et cette pratique culturelle, c'est celle qui fait sens dans la société. Aujourd'hui, un des problèmes de l'islam en France, c'est que ce n'est pas un islam de France et qu'on juxtapose donc des situations, des cultures, des pratiques qui ne correspondent pas au référentiel français et qui laissent surtout des trous béants dans la société française. Quand on est dans un pays du Maghreb, de manière classique, il n'y a pas de faille, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre la pratique familiale, la pratique sociale, l'État, la loi, l'imam qui lui-même est fonctionnaire de l'État, les mosquées qui le plus souvent sont propriétés de l'État. Donc tout ça fonctionne dans une osmose totale, et donc le musulman ne se pose pas de questions. Il est dans une culture qui répond de manière continue
et à ses interrogations et à son avancée. Mais Christian Jean, vous le dites dans votre ouvrage, vous dites qu'il y a des solutions qui existent. Elles relèvent simplement du bon sens. C'est quoi ces solutions ?
Ces solutions, par exemple, c'est que en France aujourd'hui, l'islam, comme vous le disiez très bien, qui est la deuxième religion de France, n'a pas de clercs qui sont reconnus par l'État. Si vous êtes imam, et j'ai beaucoup d'amis imams, si vous êtes imam et vous avez une fiche de paye marquée imam dessus, vous ne pouvez pas vous inscrire au chômage. Par contre, la France reconnaît, à travers la loi de 1905, les aumôniers. Or, le travail d'un aumônier, c'est le travail d'un super imam. Donc, si je puis dire, l'imam n'est pas forcément aumônier, mais l'aumônier est forcément imam. Donc on peut en France avoir des aumôniers qui sont formés par l'État à travers la formation professionnelle, avec un titre reconnu par l'État inscrit au RNCP, comme ont ce titre les catholiques. Pourquoi nous n'aurions pas le même fonctionnement ? Les catholiques ont des formations qui sont payées par l'État, qui sont payées par les fameuses OCO, la formation continue, le CPF. Pourquoi nous ne prenons pas la même voie ? Pourquoi on va se perdre dans des solutions à vouloir trouver des formations hybrides de quelques heures que personne ne reconnaît, qui ne donnent pas de métier, qui ne permettent pas d'alternance, qui ne permettent pas d'avoir une reconnaissance dans les concours de l'administration ? Rentrons dans le moule français, utilisons tous les outils que nous donne la France. Arrêtons de nous traiter de manière extérieure si nous ne voulons pas que l'État et la République nous traitent comme des indigènes de la République, comme des personnes qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas dans la pleine citoyenneté, revendiquant notre citoyenneté, revendiquant notre appartenance. Et on peut faire ça pour la formation des imams et des aumôniers. On peut faire ça pour le financement de l'islam. On l'a proposé la création d'une néobanque des musulmans.
Alors pourquoi ça peine, vous, Christian Jean, vous avez dans votre essai, qui est assez saisissant sur l'islam de France, je vous pose la question parce que aujourd'hui vous l'abordez dans votre essai, dans votre livre, vous dites que le système de cet islam, il dépend essentiellement d'un islam consulaire et clientéliste. Pour en sortir aujourd'hui, est-ce que vous considérez, vous avez le sentiment que, évidemment, l'islam est en train tout doucement de trouver sa voie, de trouver une trame d'organisation ?
Malheureusement, non.
Malheureusement.
Tout d'abord, je crois qu'il faut faire une dichotomie entre les acteurs de l'islam, les aumôniers.
Et lorsque vous dites non, pourquoi ? Je vous pose la question alors.
Et parce qu'on reprend le même système et les mêmes représentations.
Parce qu'il y a des divergences entre les différentes. Il n'y a pas de raccord entre les différentes communautés turques, algériennes, tunisiennes, marocaines, d'Afrique subsaharienne.
Il n'y a pas de raccord parce que ce n'est pas l'objectif. Les associations qui aujourd'hui constituent l'islam de France sont des associations qui sont fondées sur des cultures nationales étrangères. C'est un peu comme, je vais prendre l'exemple de la Corse. Vous êtes en Corse, vous avez l'association des footballeurs corses et vous avez demandé aux footballeurs corses de défendre l'intérêt du football européen. Vous dire, moi je défends l'intérêt du football corse, je suis élu, je suis payé par les membres de la société corse pour défendre la culture du corse. Je défends une culture, je défends une identité. C'est pour ça que mon association existe, comme on a des associations de catholiques arméniens, par exemple.
Oui.
Donc, comment peut-on demander à des gens qui existent dans une culture différente et avec des objectifs différents, avec en plus des financements, le financement est le nerf de la guerre, qui paie contrôle. Quand on prend aujourd'hui les moyens financiers, on a des informations qui sont contradictoires. Mais l'argent des fédérations qui composent les stades de France, c'est à peu près 11 à 15 millions d'euros par an. L'islam de France coûte en moyenne aux fidèles aux alentours de 150 millions d'euros par an. Connaissez-vous le budget du CFCM, l'équivalent de l'église de la Fédération des Églises de France?
Qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, le CFCM.
22 000 euros de budget.
Qui n'existe plus aujourd'hui.
Mon quartier, il a plus d'argent.
Dissolution du CFCM aujourd'hui. Hein.
Oui, mais c'est un sujet.
Quasiment, bientôt.
Mais dans quel pays vous avez vu que la laïcité interdit à l'État de se mêler de religion et que c'est l'État qui décide qui est légitime?
La dissolution du CFCM, c'est, en tout cas, elle est à l'objet, elle est à l'ordre du jour.
Oui, mais c'est l'État qui a décidé. Moi, j'ai des hauts fonctionnaires qui m'ont dit il y a 2 ans qu'ils ne reconnaissaient pas les élections du CFCM ni sa présidence. Vous imaginez, vous allez voir le préfet, vous êtes l'élu, le nouvel élu de la ville de Tarbes. Et la secrétaire générale de la préfecture vous dit, mais moi je ne vous reconnais pas, parce que vous n'êtes pas du parti politique que je reconnais, et donc je ne reconnais pas
l'élection. Alors comment, Christian Jean, vous l'avez dit dans votre ouvrage, Le préfet de l'islam et l'indigène de la République, vous l'abordez toutes ces questions effectivement, et franchement il est excellent votre essai, et j'invite tous nos auditeurs à aller se le procurer sur Amazon.fr, Le préfet de l'islam et l'indigène de la République par Christian Jean. Allez, vraiment, on apprend beaucoup de choses et moi-même je reconnais que effectivement vous nous embarquez vers des questionnements, des interrogations en permanence. Aujourd'hui, quel est le schéma idéal justement pour sortir de tout ce que vous êtes en train de nous esquisser à l'antenne? Quel est ce schéma aujourd'hui pour sortir de ce système du clientélisme, ce système consulaire? Quel est ce schéma pour sortir de cette dépendance du ministère de l'Intérieur? Comment voyez-vous les choses, vous, Christian Jean?
Alors, une règle, 3 actions, de manière très concrète et très précise. Première règle, appliquons la laïcité. L'État n'a pas à se mêler et organiser le forum de l'islam de France en choisissant des personnes et en disant qui est légitime et pas légitime.
Oui.
Organisons des primaires de l'islam de France, comme il y a des primaires de la droite et des primaires de la gauche, que les électeurs musulmans prennent leur carte, aillent voter et disent « moi je veux que ce soit lui ou elle qui me représente ». Première action. Et là, il y aura une vraie représentation politique. Moi, j'ai quand même été dans des chorages, j'ai été responsable de l'aumônerie pour les pays de Loire, je suis musulman, j'ai été dans 5 mosquées différentes, je n'ai jamais pu voter une fois. Et si on fait le tour de tous les musulmans que je connais autour de moi, quels sont ceux qui ont voté?
Oui.
Donc, un, retrouver les principes républicains, la légitimité, la souveraineté des citoyens musulmans. Deuxième élément, rien ne se fait sans argent. Alors, arrêtons d'inventer des choses qui sont stupides, surréalistes et qui ne marcheront jamais. Il y a aujourd'hui une solution simple. C'est un projet que j'ai porté notamment et que j'ai proposé à la Fondation de l'Islam de France, qui est donc une fondation laïque. Ayons une carte avec laquelle vous pouvez faire des dons. Vous donnez 1% chaque fois que vous allez au cinéma, oui. Vous faites l'arrondi quand vous faites des courses, vous dites chaque mois je donne 10 euros, ça part de la fondation, elle fait la comptabilité, elle vous renvoie votre reçu fiscal, comme le font tous les catholiques, tous les juifs, tous les protestants, sauf les musulmans. Et puis cet argent, il est tracé dans les mosquées, dans les associations où vous le donnez, on a des moyens, on peut travailler, il y a une visibilité, sans argent, pas d'autonomie, pas d'indépendance. Ça coûte quoi? Ça coûte 1 million d'euros de monter une banque. On est 6 millions de musulmans. Donc si on donne chacun 30 centimes d'euros, on monte la banque. Donc il y a un moment, il va quand même falloir s'assumer.
Eh bien,
troisième solution, oui. Formons les gens dans la République avec une formation chez France Compétences que j'ai proposée, moi, au moment du Covid, qui est acceptée par tout le monde et qui a été abandonnée par tout le monde. Une formation républicaine avec des profs qui sont des vrais profs, pas des savants inventés de l'islam, des gens qui ont des doctorats. Les meilleurs islamologues au monde sont en France. Donnons à ces gens-là la possibilité de faire des cours. Créons un diplôme professionnel reconnu. Et là, on aura avancé.
Merci Christian Jean. Un livre que je vous invite vraiment à aller vous procurer sur Amazon.fr. On apprend beaucoup de choses d'ailleurs. Et vous nous apportez un éclairage concernant cet islam, cette réalité française. Le préfet de l'islam et l'indigène de la République, c'est le titre de votre essai, un essai saisissant. Eh bien, merci Christian Jean.
Est-ce que je peux juste, merci Adil, merci beaucoup, juste en conclusion,
oui.
Aujourd'hui Madame Le Pen vient de faire une proposition pour interdire le voile dans la rue, qui est en contradiction absolue avec la loi de 1905 sur la laïcité. Pour information, les premiers écrits sur les problèmes de voile en France remontent à 1920, et ce n'étaient pas les musulmans qui portaient le voile, c'était les polonaises dans le nord de la France qui le dimanche allaient à l'église avec un long voile blanc qui allait jusqu'à la cheville, il y avait déjà des textes dans les journaux contre le voile en France. On est en lien, on recommence, sortons par le haut.
Merci Christian Jean, merci à vous, merci infiniment. Allez vous procurer le livre. 19h15, on se retrouve avec les débatteurs, les influenceurs. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant.
Alors, on voulait pas voir monsieur le maire, hein?
Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Merci à la créa, ça c'est Giovanni notre réalisateur. 19h23 précisément, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Allez, premier sujet qui a retenu notre attention, c'est celui des présidentielles. Et ça monte pour Jean-Luc Mélenchon. Ça monte tellement haut que, eh bien, certains se posent la question, ne risque-t-il pas de se retrouver au second tour, un face-à-face probable, scénario possible, avec notamment Jean-Luc Mélenchon face à Emmanuel Macron, y compris, je veux qu'on aborde la question, Jean-Luc Mélenchon, qui trouve son carton dans les quartiers populaires. Pour quelle raison ?
Bonjour Adil, bonjour à tous les auditeurs.
Tu me regardes. Ah, je ne vous ai pas dit bonjour.
Ah non, tu ne nous as pas présenté.
Je vous ai dit bonjour. Oh là là.
C'est la cloche, c'est la cloche.
Ah là, qu'est-ce qui m'arrive ? Bonjour Nadir Kaya.
Bonjour.
Président de Banlieue Plus, comment ça va ?
Ça va, très
bien. Ben oui, je suis flingué moi. Attends, mais je veux aller vite, c'est pour ça.
Pourtant, c'est pas vendredi ?
Non, mais je veux aller vite.
En plein cœur de la semaine.
Ben oui, c'est vrai, ça. Abdeslamitage, comment ça va ?
Bah très bien, Adil.
Notre responsable du Modem sur le département du 95.
C'est ça.
Ça va ?
Très bien.
Raïd Chebbi, bonjour.
Bonjour.
Arrêtez. Je me fâche. Le président de la coopération franco-tunisienne, qu'est-ce qui vous arrive?
Non, c'est votre punch.
Ouais, bah, je vais vous faire un jingle, votre sourire. Je vais récupérer votre sourire. On va en faire. Giovanni, on va récupérer le sourire de la tranche de rigolade de notre ami Raïd Chebbi. On va en faire un jingle rien que pour lui. Hein.
Avec plaisir.
Et on va entendre que votre sourire.
C'est gentil.
Voilà. Alors, Nadir Kaya.
Non, bah comment dire, comme je disais en off.
Il berce, grave.
Moi-même qui n'ai pas un adepte de la gauche ou de l'extrême gauche, je suis un petit peu séduit par ce programme assez complet.
Ouais, un peu beaucoup, parce que je vous ai vu tweeter hein, sur Mélenchon. Hein.
Ah ouais, ouais. J'ai fait Pécresse tout à l'heure. Non, je ne suis pas un fan, mais on va dire que je suis intéressé par rapport à ce qu'il peut dire et ses débats. Et quelque part, sa capacité à se faire entendre ou à répondre aux besoins de certains Français. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant si on arrive vraiment à un face-à-face avec Macron, quoi. Macron-Mélenchon, ça peut être un face-à-face intéressant, parce que c'est vraiment des oppositions. Et puis sur l'aspect social, Mélenchon, je pense qu'il est capable de faire ce que la plupart des autres ont oublié de faire pour les Français qui souffrent au quotidien.
Qui souffrent au quotidien, ça veut dire quoi ça ?
Bah,
ça veut dire que Mélenchon, lui, il draine que...
Tu évoquais les quartiers populaires.
Oui.
Je rappellerai que les quartiers populaires, comme aussi la France profonde, aussi les campagnes, mais notamment les quartiers populaires, je vois avec des amis et pas mal de personnes depuis au moins 15 jours maintenant, de plus en plus d'adhésion à la France insoumise et notamment au programme de Mélenchon. Donc je sens qu'il y a une dynamique dans les quartiers populaires. C'est vrai qu'historiquement, les quartiers populaires, c'est l'abstention, c'est la désillusion avec la gauche pendant des décennies. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique Mélenchon.
Et c'est vrai qu'il trouve écho.
Qui s'installe de plus en plus dans les quartiers populaires.
Exactement, il trouve écho. Mais c'est quoi ? C'est l'islam ? Parce qu'il parle des musulmans ?
Non, mais c'est.
Parce qu'il parle de qui au fait ?
Non,
moi j'entends régulièrement
les musulmans,
c'est parce qu'il parle de nous. C'est pas que ça.
Je vais réagir par rapport à un sujet, notamment sur la laïcité. Moi j'ai été étonné de son propos. Je le trouve, à mon sens, le plus juste dans la définition de la laïcité d'un point de vue historique. Donc quand il parle de la laïcité, quand il parle de la neutralité de l'État, du président, des fonctionnaires, de tout ce qui représente l'État, pour moi, c'est ça la laïcité. Et quand on entend les autres, habituellement, qui nous parlent de laïcité, une laïcité un petit peu travestie pour taper sur les musulmans, eh ben, je me rends compte qu'en fin de compte, c'est lui qui a vraiment une approche historique de la laïcité, et donc quelque part, qui peut garantir aux musulmans un mieux vivre et moins de subir moins ce qu'on subit depuis longtemps, c'est-à-dire l'islamophobie au quotidien, une laïcité travestie et qui est plutôt une laïcité qui tape sur les musulmans, et sa façon d'aborder la laïcité, je pense qu'elle trouve aussi écho auprès des musulmans.
Faisons un tour de table justement, je voudrais entendre aussi également Abdeslam Itache et Raed Chaibi. Abdeslam Itache.
Oui, en effet, aujourd'hui Mélenchon, parce que Taubira n'est plus candidate, parce qu'elle n'a pas eu ses signatures, parce que les autres candidats de gauche sont plus que médiocres, Mélenchon a un score qui est nettement meilleur, mais s'il veut vraiment percer, il faudrait que ses concurrents de gauche, je pense à Anne Hidalgo, je pense au candidat Yannick Jadot, au candidat communiste,
Roussel aussi notamment, lui, Roussel. Philippe Poutou,
Florence Artaud,
Nathalie Artaud, pardon.
Non, j'ai dit Florence Artaud, Nathalie Artaud, Florence Artaud,
c'est pour ça que j'ai corrigé.
C'est la navigatrice.
Oui.
Ça c'est Florence, c'est autre chose.
Mais ramer, c'est aussi le sport de la gauche.
Oh, clochette, oh là là. Abdeslam Itache, il est chaud ce soir.
En fait, voilà, l'idéal pour lui, ça serait vraiment que tous ces candidats de gauche s'écroulent pour qu'ils puissent capitaliser et que la gauche puisse prendre conscience que le vote utile est possible.
Et la perspective du second tour, c'est possible ?
C'est envisageable. Oui. Et je pense que ça serait... Vous savez, alors, je ne porte pas Mélenchon dans mon cœur, et vous le savez.
On a bien compris que c'était...
Mais ça serait, je crois, bon pour la démocratie et pour la France que l'on ait un débat sain entre Emmanuel Macron et Mélenchon, plus qu'avec Le Pen. Donc, oui, pourquoi pas ? Moi je suis pour le débat constructif. Et moi, ça ne me gênerait pas de voir Mélenchon au second tour face à Emmanuel Macron.
Eh bien, tiens, Raed Chaibi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, les quartiers populaires, Mélenchon, la hausse, le potentiel, la perspective d'un second tour, tout cela, évidemment. Aujourd'hui, il a le vent en poupe. Hein.
Bah, même s'il y a beaucoup de choses qui me séparent de Jean-Luc Mélenchon, force est de constater que c'est un tribun hors pair. C'est un candidat qui a beaucoup de charisme, ça c'est clair. C'est un excellent tribun, c'est quelqu'un qui effectivement en impose quand il est...
Il galvanisait trop plus, hein.
Est, bien sûr. Et donc il incarne aux yeux de la gauche celui qui peut être l'alternance. Ceci étant dit, pourquoi il a cette popularité dans les quartiers populaires, je pense c'est parce que, comment dirais-je, il parle de sujets qui, dans ces quartiers-là, ne laissent pas insensibles. Je le dis sous le contrôle de Nadir Kaya, mais quand il parle, parce qu'il connaît très bien ces sujets-là, même si je fais aussi partie de ces quartiers populaires, mais quand il parle de lutter contre l'islamophobie, alors qu'il était absolument contre il y a 7 ans en arrière, hein, c'est assez marrant de voir l'évolution idéologique de Jean-Luc Mélenchon,
qui disait
en novembre 2015, je conteste le terme d'islamophobie et qui a complètement changé
les Kazakhs. C'est vrai, bon, c'est pour ça que je comprends, j'ai du mal à suivre, moi, Mélenchon.
Chacun a le droit de changer d'avis, hein, même s'il y a, je pense, un petit peu d'électoralisme là-dedans. Quand il parle des violences policières, etc., forcément, ça ne peut que galvaniser. Dans les quartiers populaires, pas dans son ensemble, mais ça peut trouver un certain écho. Donc maintenant, ce qu'il propose dans les quartiers populaires, ça, c'est une autre paire de manches.
Une autre paire de manches. Mais c'est vrai qu'il a raison, Raed Chaibi. Autant il a tenu un discours il y a quelques années, et il revient un peu, il rebrousse chemin, il fait quoi ?
Non, mais c'est ça qui est compliqué avec les politiques. Si aujourd'hui la politique, c'est de faire de la politique dans le sens où on dit ce que les gens veulent entendre pour gagner des voix et pour arriver au sommet de la démocratie, moi je trouve ça malheureux parce que souvent il y a de la désillusion. Macron, qui lui-même avait fait campagne sur le fait d'être ni de gauche ni de droite, et là on parlait du fait que peut-être idéalement ce serait intéressant d'avoir un face-à-face Mélenchon.
En tout cas Mélenchon, Macron, il en rêve.
Donc on va revenir.
Il en rêve. Mélenchon, ça il en rêve.
Aux
il rêve
d'un second tour
avec Macron.
Avant, c'est-à-dire la droite, parce que Macron aujourd'hui et sa politique qu'il a menée depuis 5 ans, c'est une politique de droite. Hein, faut être clair. Mélenchon, c'est la gauche. Donc on va revenir quelque part à ces anciens combats qu'on avait l'habitude d'avoir. Et malheureusement, je pense que ça va être au désavantage des Français de façon générale, parce que globalement, les Français rejettent aussi un petit peu ce côté bizarre qu'on a eu pendant des années. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a malheureusement pas d'offre politique qui puisse être une alternative aux réalités des Français sans passer par une idéologie de gauche, de droite et cette opposition qui malheureusement n'apporte rien aux Français dans le quotidien.
19h31, précisément avec une minute de retard, nous allons tout de suite retrouver le billet d'humeur, le quoi de neuf de Faïza Ben Mohamed. C'est parti.
Les informés, le quoi de neuf.
Faïza Ben Mohamed, journaliste indépendante. Bonsoir Faïza.
Bonsoir. Bonsoir Adil.
Après la mort, évidemment, donc on a appris la mort d'Ivan Colonna concernant donc il y a là à peine quelques heures. Vous avez décidé, vous, de consacrer votre billet d'humeur sur justement Ivan Colonna. On vous écoute.
Alors effectivement, Aline, j'ai choisi ce sujet parce qu'il est déjà omniprésent depuis le début du mois avec l'agression d'abord d'Ivan Colonna qui, voilà, vous le rappelez, est décédé hier après 3 semaines de coma. Alors depuis, la Corse s'est embrasé à coup de manifestations, de revendications politiques et surtout de violence. Et il faut dire d'ailleurs que face aux événements et surtout une crainte que la situation s'aggrave sur place, le gouvernement a pris quand même le problème à bras-le-corps en dépêchant Gérald Darmanin la semaine dernière sur place pour entamer des articles de discussion sur la possibilité d'une autonomie. Mais au-delà des questions qui sont purement politiques, qui sont de l'indépendance de la Corse, quand même se pencher sur un autre problème. Le meurtre d'Ivan Colonna par un de ses co-détenus condamnés pour des faits terroristes, ça doit quand même tous nous interpeller. Alors je sais que c'est pas très très populaire de défendre les droits des prisonniers et leur dignité, mais je vais le faire quand même, parce que je pense que le sujet mérite d'être posé. Ce drame, rappelons-le, c'est quand même l'histoire d'un militant nationaliste condamné à perpétuité pour l'assassinat d'un préfet, tué à main nue par un homme qui, ça aussi rappelons-le, était de retour d'Afghanistan. Mmh. Alors c'est carrément, pour moi, je pense, froid dans le dos. Ça doit nous interroger collectivement sur le fonctionnement de notre administration pénitentiaire. Il y a plein de questions que je me pose. Pourquoi ce type de profil se retrouve en contact l'un avec l'autre en promenade? Pourquoi un corps se retrouve incarcéré loin des siens malgré les multiples demandes de sa famille? Pourquoi pendant 8 longues minutes, personne n'est intervenu alors qu'il était en train d'être étranglé à main nue? Pourquoi l'État ne peut pas protéger la vie de ceux qui sont emprisonnés quand bien même ils ont commis des pires? Alors au-delà des considérations sur l'autonomie, d'accord, je vais finir là-dessus. La question que je pose, c'est celle de savoir si on peut se contenter au pays des droits de l'homme d'un système carcéral aussi défaillant qui se transforme souvent en école du crime.
Exactement, bonne question. Merci, bravo pour ce billet d'humeur. À mardi prochain sans faute, Faïza Ben Mohamed.
À mardi prochain, bonne soirée.
Prenez soin de vous. Faut-il craindre une nouvelle vague au printemps? C'est le Covid-19 et on va aborder la question. L'exécutif n'est-il pas trop empressé d'aller justement faire tomber le masque, faire tomber le pass vaccinal, je cherchais le terme. On en parle tout de suite après la pub. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant.
Mais pardon, j'existe. Y a pas de communistes qui tiennent.
Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
19h40, les informés avec Nadir Kaya, les informés avec Abdeslam Itache et enfin les informés avec Rayed Chaibi.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je voudrais vous entendre partout en France, nous appeler et commenter l'actualité avec nous, justement concernant le Covid. Est-ce que vous gardez le masque? Est-ce que vous avez continué à justement vous protéger contre le Covid-19, le coronavirus, éclipsé en ce moment même par la guerre en Ukraine, j'allais dire en Irak, en Ukraine? La pandémie du Covid-19, paraît-il, elle génère des cas d'augmentation en France, en Europe. Et il est difficile, bien sûr, d'avoir des chiffres aujourd'hui, mais toujours est-il, l'ampleur et la sévérité, elle existe bien. Et paraît-il, selon les scientifiques, encore une fois, eh bien, le Covid ou la Covid-19 augmenterait, et même d'ailleurs, on parlerait d'une nouvelle vague en printemps. Alors, faut-il, par précaution, conserver le masque, Nadir Kaya? Je vous écoute.
Ah oui, c'est encore à moi? Non, mais moi, ce que je peux dire, c'est que dans le domaine du travail, notamment dans ma société, c'est vrai que je vois encore des traumatismes de certains collègues qui portent encore le masque.
Ah oui?
Tout à fait, oui. Il y a beaucoup de gens qui prétextent d'être malades ou d'avoir peur de retomber un peu dans ce cycle-là, donc ils portent le masque. On constate aussi un relâchement dans les gestes barrières, le fait de se mettre à distance et tout ça. C'est vrai que ça.
On
peut...
a tout relâché, hein.
Oui, c'est normal. Oui, mais c'est normal. Pendant 2 ans, quand même, on a vécu des choses quand même assez.
On a morflé, tu peux le dire.
Assez violente, hein.
Tu peux le dire.
Donc c'est vrai que ça a été un vrai soulagement. Moi, le premier, donc aujourd'hui, je le mets plus du tout. Après, c'est sûr que ça peut nous amener à.
Y compris dans les transports en commun?
Bah, je le prends pas, moi je suis en bécane, donc les cheveux dans le vent, donc je n'en ai pas besoin.
Il n'y en a pas beaucoup.
Mais ouais, il n'y en a pas beaucoup pour ce qui reste, mais je vais jusqu'au bout.
En tout cas, la France, l'Allemagne, l'Italie,
relâchement. Après, on se pose quand même la question de l'efficacité des vaccins. Quoi. On a fait plusieurs doses, donc à un moment donné, est-ce qu'on va arriver vraiment à être immunisé face à ce Covid? J'ai pas l'impression. Ah, oui. Donc c'est toujours cette menace qui est sur notre tête. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais je pense que c'est un vrai soulagement.
Est-ce que la prochaine vague, justement, n'a-t-elle pas commencé en Europe ? D'Islamitage, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, il y en a même qui portent masque au niveau du menton. Donc c'est vous dire. Non, non, vraiment, trêve de plaisanterie.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous avez raison.
Alors, nous sommes toujours en guerre. Une guerre sanitaire qui.
Cette sémantique.
Oui, oui, qui est toujours d'actualité. Et des gens meurent encore, sont hospitalisés. Il y a.
Il y a rien maintenant,
que moi, j'ai eu du mal à lâcher le masque. Je l'ai fait là, ces derniers jours, mais. Alors, j'en ai toujours un dans la poche, parce que moi, pour le coup, je prends les transports en commun. Mais
il est encore obligatoire dans le transport.
Il faut savoir raison
garder, là,
être prudent. Et en effet, je vois autour de moi des gens qui s'embrassent, qui se font des accolades, qui se serrent la main. Moi, je dis qu'il faut rester prudent.
Qui retrouve une certaine vie, non, une certaine normalité.
Il a raison à dire qu'il y a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a morflé pendant deux ans et aujourd'hui, on veut. Les gens veulent vivre, liberté, voilà, tout simplement.
On ne doit pas le faire pour soi, on doit le faire pour les personnes.
Non, mais les gens,
fragiles.
Vous pensez.
Oh là, c'est du macronisme.
Pour toi, être prudent, c'est être macroniste, mais je peux, j'assume totalement.
Mais je peux l'être différemment.
Non, mais vraiment. Non, mais si pour toi, être inconscient, c'est être non.
C'est pas de l'inconscience, non.
Il n'y a pas de souci.
Non,
chacun son opinion, c'est pas grave.
Je t'apprécie énormément, mais je ne peux pas entendre ça. On nous a entendu pendant deux ans, on nous a bassinés.
C'est que les personnes âgées aujourd'hui sont des personnes vulnérables.
Ah là, c'est pas que les personnes âgées qui sont touchées.
Oui, les personnes qui ont une comorbidité prononcée ou grave. Toutes ces personnes qui ont des insuffisances respiratoires, et moi je dis qu'il faut absolument être prudent, veiller, et ça c'est de la bienveillance, veiller sur les personnes les plus fragiles, et qu'il faille faire attention, et en effet, moi je surveille
Ah bah moi je préconise aux personnes fragiles de continuer à porter le masque.
Donc,
je vous le dis.
Et moi je suis déjà prêt, puisque bon, moi je gère des équipements sportifs où on accueille du public. Moi, je suis déjà prêt à remettre en place tout le circuit avec les limites, avec les jauges dans les vestiaires pour justement éviter de nouveaux cas de contamination.
On va replonger.
Donc, il faut être responsable.
Je pense être autant responsable que toi, mais je vois les choses de façon différente.
Voilà, tout simplement. Non, mais chacun son opinion, c'est le but des informés.
C'est le but des informés.
De toute façon, après, qu'on n'a pas entendu.
Avec la levée des restrictions sanitaires, c'était indéniable que le Covid allait repartir à la hausse, puisque il n'y a plus de masques, il n'y a plus de passes. Gestes barrières.
Oui, mais on a été vaccinés, c'est ça qui est bizarre.
Non, mais
le taux a augmenté aussi.
Être vacciné ne veut pas dire ne pas le choper.
Ça ne veut pas dire ne pas le choper à un moment ou un autre.
Oui, ça veut dire simplement éviter les formes sévères.
Je pense que les restrictions n'auraient peut-être pas dû être levées comme ça, entre guillemets, brutalement. Je pense qu'on aurait dû y aller par phase, ou alors adapter le protocole. Exactement.
Elle s'est adressée à l'Europe.
Exactement. Peut-être adapter
ce que le gouvernement a accepté de l'OMS ou pas.
Adapter le protocole sanitaire et comment dirais-je, parce qu'on sait très bien que ça ne se finira pas. Je pense qu'on aurait dû l'adapter et pas lever comme ça brutalement, puisqu'on sait que ça va repartir à la hausse.
Alors qu'est-ce qu'on dit alors? On dit on prend les masques. Qu'est-ce qu'on fait alors finalement? Non, mais franchement, nos auditeurs sont.
Anti-masque.
Ouais.
Qu'on rappelle la prudence, effectivement.
Moi, je suis pas fan du
certains
masque,
gestes barrières, oui, notamment dans des lieux restreints. Mais là, voilà, c'était tout le paradoxe de ce qu'on a subi pendant deux ans. Les transports en commun. Donc, à un moment donné, on a serré la vis d'un côté, mais les transports en commun, c'était la folie.
Non, mais transports.
Là, il y a débat sur les résultats parce que.
Il y a des vies qui ont été sauvées,
attendez, c'est pas du tout audible. Nadir Kaya, ensuite, après Samitage.
Préparation, il y a eu des mensonges, il y a eu des abus, on nous a fait croire des choses, notamment
mais
sur les vaccins.
Préparation, Nadir Kaya, ça nous est tombé dessus.
C'est tombé dessus sur toute la planète,
oui,
pas que
sûr.
La France, mais la France en termes de préparation, d'anticipation, c'était catastrophique.
Oui.
Après, on peut dire effectivement que Macron a essayé peut-être de rattraper la chose, mais quand on voit le ministre de la Santé et sa gestion et de façon récurrente à dire tout et son contraire d'une semaine à l'autre, on voit bien que la gestion, globalement, ça a été catastrophique. Surtout quand on fait une comparaison avec certains pays qui étaient pour certains des exemples, et quand on a vu un peu la finalité de tout ça, ça a démontré qu'en fin de compte, il y a eu un manque de professionnalisme du début jusqu'à la fin.
A reconnu par la suite que c'était un échec, et c'est complètement vautré, alors qu'on a pour habitude de prendre la Suède assez souvent comme exemple. Donc,
oui, on a pris Israël pendant plus d'un an et demi jusqu'au jour.
Il y a un système qui est infaillible. On voit bien, les Israéliens ont été les premiers à vacciner l'ensemble de leur population. Ça ne les a pas empêchés de...
Non, mais on sait que globalement, les mesures qui ont été prises, ce n'étaient pas des mesures sanitaires, c'était des mesures politiques. Même aujourd'hui, les spécialistes commencent à se libérer et à dire que c'était des décisions politiques à chaque fois et non pas de santé publique.
Et vous dites décision politique et pas décision scientifique.
De santé publique. C'est les spécialistes qui le disent aujourd'hui.
Donc on ne peut pas le nier. Quand on a des hôpitaux qui sont complètement saturés, on ne va pas faire l'histoire du nombre de lits.
Ah oui, là on peut faire le constat. Macron, là-dessus, les hôpitaux, il a supprimé des places. Il a même viré des aides-soignants.
La question que je vous pose justement à Abdeslam Itach, vous savez quoi, les chercheurs et les experts, ils disent que la situation épidémique en France considère majoritairement que les mesures ont été levées trop tôt par l'exécutif.
Peut-être, et c'est pour ça que je dis aux uns et aux autres d'être prudents, de garder leur masque lorsqu'ils
pour les personnes fragiles ou pas?
Les deux. Mais vous posez une question, je vous réponds. Les deux. Bon. Pour une raison, c'est que on peut être vecteur de la maladie. Ça veut dire être asymptomatique, être porteur de la maladie et la diffuser.
Et le vent de liberté. Le vent de liberté que dont Nadir Kaya nous rappelait. Ce vent de liberté qui souffle enfin en France.
Ça n'empêche pas une forme de liberté. Non, mais c'est juste une réadaptation.
Ce qui m'étonne dans cette gestion générale, c'est qu'on a oublié qu'en fin de compte, il y avait la vie et la mort. Je dis pas ça dans le sens où il ne fallait rien faire. Mais on a oublié qu'il y avait aussi la vie et la mort, et qu'à partir de là, il faut savoir vivre aussi. On vit avec des virus, on vit avec des maladies. Mais là, ça a atteint un summum de la bêtise et de l'incohérence à tous les niveaux. Et preuve en est, comme je dis, il y a des spécialistes aujourd'hui qui commencent à se libérer de ce dictat et à faire des livres sur la gestion du gouvernement depuis deux ans.
EHPAD, le masque a été maintenu justement pour éviter que ces personnes soient âgées. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Bah,
donc, les personnes
vous voyez, on est déjà
c'est du bon sens. On n'a pas besoin de Macron.
Messieurs, je voudrais qu'on fasse un tour de table. Vous savez quoi sur le dernier sujet qui vous interpelle aussi notamment, c'est la présidentielle. C'est Valérie Pécresse qui peine justement à gratter quelques pourcentages pour se retrouver dans cette course du second tour. C'est Valérie Pécresse.
C'est une gratteuse, c'est ça.
Non, du tout. Non. Je l'ai dit de façon évidemment un peu triviale. Mais donc Valérie Pécresse, est-ce qu'elle attend ce fameux soutien de Nicolas Sarkozy? Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Abdeslam Itach.
Alors, moi, je veux bien réagir le premier sur le sujet. S'il y avait eu un soutien de Nicolas Sarkozy, il y a belle lurette qu'elle l'aurait eu.
Ah bon? Et peut-être qu'il attend le moment?
Non, ce qui se dit, c'est que Nicolas Sarkozy risque de soutenir Emmanuel Macron. Et ça l'embête.
Mais c'est une claque, ça,
magistralement.
Pour Valérie.
Ah, mais complètement.
C'est un chaos.
Mais déjà, le fait de ne pas la soutenir dès à présent, c'est déjà un désaveu. C'est déjà un désaveu.
Non, vous voyez,
elle s'est pris déjà une claque avant ce week-end avec des personnalités de la société.
C'est ce qui veut se faire désirer, Nicolas Sarkozy, non?
Qu'elle aurait voulu désigner comme Teddy Riner ou autre, qui a fini avec un smile et mort de rire. Déjà, c'est déjà se prendre les pieds dans le tapis. Elle rêve d'un soutien de Nicolas Sarkozy qui n'arrive pas. Franchement, je pense que si elle continue à creuser, elle va tomber sur du pétrole.
Raïd Chaïbi, elle va tomber sur du pétrole. Oh là là,
à votre question, je dirais cette réponse qui va vous permettre de comprendre, sans même que je réponde, la réponse de Nicolas Sarkozy.
Il nous reste 2 minutes avant dans l'antenne et il faudrait.
Ces résultats de la primaire de la droite vont permettre l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de la droite sans Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à renouer des liens avec les Français. Il n'a pas su amener de solutions nouvelles. Les Français ne veulent plus de personnes qui changent d'avis et qui préfèrent ceux qui parlent peut-être moins fort, mais qui agissent plus fort. Savez-vous qui a dit ça?
Pécresse.
Valérie Pécresse, le 21 novembre 2016, après la défaite de Nicolas Sarkozy. Vous pensez vraiment qu'avec de tels propos tenus à l'égard de Nicolas Sarkozy, celui-ci va venir la soutenir?
Certainement pas. Voilà. Nadir Kaya. C'est vrai que là,
Non, mais moi, je suis pas un spécialiste du fait politique. Je suis un Français moyen qui fait des constats. Et il faut pas oublier que Sarkozy, il était président de la République, donc il sait très bien où est son intérêt. Son intérêt, c'est aussi le fait de voir aussi les sondages, de voir que Macron est toujours en tête, qu'il est à plus de 30%, que dans tous les cas de figure, que dans tous les cas de figure possibles, face à ces deux ou trois rivaux qui sont juste derrière lui, il est quand même gagnant. Donc Sarkozy a fait tout de suite le calcul. Je vois pas l'intérêt ou l'intérêt qu'il aurait à rejoindre Pécresse.
Tout ça nous amène à dire, en tout cas,
Ma conclusion vous concernant, quand je vous écoute parler, c'est que Sarkozy prendra sa décision au dernier moment.
Pas forcément.
Publiquement, parce que je pense qu'elle est déjà prise. Hein.
Ouais. Oui, elle est déjà prise.
Et bon, on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Merci à vous. Merci à Nadir Kaya, président de Banlieue Plus. Merci Abdeslam Itach, le responsable qui coordonne justement le collectif En Marche avec le Modem. C'est sur le département du 95. Merci au président de l'association franco-tunisienne, Raïd Chebi.
Merci à vous, Adi.
À la réalisation, c'était Giovanni. On retrouve dans une poignée de minutes, 20h, 21h. Il a le temps de venir donner son programme ou pas du tout? Il est où, Bilal? Bilal Nedman.
Monsieur Nedman.
Cours dans les couloirs de Beurre FM.
Le Marseillais
qui vient nous voir. Bonsoir, Bilal Nedman.
Oui. Bonsoir.
Quel est le sommaire éditeurs qui nous attend de 20h à 21h pour Time Sport?
On va prédire peut-être la finale en coupe de la Ligue Conférence, peut-être de Marseille.
Et c'est tu dis ça, quoi? Et tu dis quoi?
À Marseille ira, à mon avis.
Ah, c'est Marseille ira. Wow. À tout de suite, les Marseillais. Un présentateur doit être neutre.
On va parler de l'équipe de France.
Nadir, il va vous taquiner,
On va parler de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud et aussi à Marseille face à la Côte d'Ivoire.
Et la blessure de Benzema?
Benzema, on va revenir sur Benzema aussi, notamment N'Golo Kanté, mais sans oublier le salaire. Les salaires astronomiques du PSG.
Vous avez parlé du classico.
Moi, ça, j'en peux plus.
Sur les 30 premiers, 21 du PSG.
C'est énorme.
On va revenir sur ça, vraiment, le football.
20h, 21h, Bilal Nedman avec Time Sport. À tout de suite. Ne manquez pas ce beau sommaire qui vous attend. À demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.